tous, nous allons commencer notre deuxième journée. J'espère que tout le monde est arrivé, presque. Hier, on a dû refuser du monde. Je sais que vous êtes assez serrés, mais le principal, c'est que tout le monde ait une place assise. Bon, il y a encore des places libres, là, je vois. Tout le monde n'a pas dû encore arriver. En tout cas, merci d'être là, pour ceux qui étaient là hier et pour ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui au colloque. Nous sommes très très heureux que vous soyez là et nous espérons que cette deuxième journée sera aussi dynamique que celle d'hier. De la vie générale, les interventions étaient passionnantes, il y avait une bonne ambiance, des questions intéressantes. J'espère qu'aujourd'hui ce sera la même chose dans cette continuité. Alors hier, nous avons abordé les concepts du trauma. Nous sommes entrés dans l'univers du cerveau avec des chercheurs de différents horizons, neurologues, cliniciens, psychologues, psychiatres, neuroscientifiques. Et nous avons pu découvrir, enfin en tout cas comprendre un peu mieux ce que nous savons maintenant, mais que le figement traumatique était à prendre en considération de manière très précise et pas au hasard et pas en amateur, dans nos accompagnements psychothérapeutiques. Et que cette question de la sidération traumatique ne peut pas s'aborder comme n'importe quelle autre problématique. Disons que le psychotrauma est à prendre en compte en tant que tel. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie et quels sont ses impacts au niveau du cerveau. Donc on a vu que cela engageait des processus neurobiologiques complexes au niveau du système nerveux central, et que ça ne se traite pas par n'importe quelle thérapie verbale. Enfin, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais puisqu'on a vu qu'il y avait des courts-circuits entre le système reptilien et le cortex. Donc, l'accès à la parole n'est pas possible dans certaines situations. Donc, il faut d'abord débloquer l'émotion qui est enquistée dans ce complexe neuronal. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'on a pu aussi entendre, et je souhaitais que ce soit dit dans ce colloque, qu'il peut y avoir des interventions dommageables en psychothérapie, c'est-à-dire de retraumatisation, si on n'a pas pris en compte cette considération donc du figement traumatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus provoquer des catharsis trop violentes, ce qu'on a l'habitude de faire dans beaucoup de courants humanistes, de faire recrier les gens, recrier la colère. Non, ça retraumatise au contraire, on renforce le sillon traumatique. Donc ça, je pense que c'est important de le dire et de le redire. Non pas qu'il ne faille pas s'intéresser aux émotions, bien évidemment, quand elles sont là, il faut les laisser s'exprimer, mais quand la personne est dans un état de stress post-traumatique, il ne faut surtout pas la faire revivre son traumatisme via l'émotion, enfin en tout cas en poussant l'émotion. Donc on a vu qu'il y avait des méthodes plus sensorimotrices qui pouvaient nous aider à aborder cette question. Alors aujourd'hui, on va entrer on va aller plus à fond dans les méthodes ou les approches qui permettent d'accompagner les personnes psychotraumatisées. Cet après-midi, on ira un peu plus loin dans le thème de ce colloque, qui, je vous le rappelle, est trauma et sens, puisqu'on va rentrer dans l'aspect plus existentiel de l'être humain, avec des interventions sur la psychologie positive et notamment et sur la logothérapie, la thérapie existentielle. On aura aussi, avant ces deux interventions, quelqu'un qui nous parlera d'un traumatisme collectif au Rwanda et qui nous montrera comment il est intervenu auprès de ces populations traumatisées pour essayer de revivre après ce drame. Donc ce matin, on va plutôt se focaliser sur des approches cliniques que vous connaissez, qui ont été créées de manière plus spécifique pour accompagner les personnes traumatisées. Alors la plus connue, c'est le MDR. Je pense que vous la connaissez tous. Et on a souhaité, dans ce colloque, faire venir un chercheur qui a un laboratoire de psychologie clinique à Metz et qui travaille depuis de nombreuses années fait des études cliniques et scientifiques pour comprendre comment ça marche. Donc il va nous présenter les différentes littératures sur le sujet. C'est très important pour nous praticiens, enfin en tout cas moi je suis praticienne EMDR et je sais que nombreux parmi vous le sont aussi. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, ce fameux mouvement des yeux, et de savoir ce que l'on fait aussi avec cette technique. Ensuite, nous écouterons, alors donc nous allons écouter d'abord Cyril Tarquignot, ensuite nous écouterons Marie-France Gisard qui nous fera entrer dans l'univers de l'enfant et des traumatismes précoces. Donc là, on ne sera pas dans l'excès d'excitation traumatique, mais plutôt dans le manque. On parlait hier de la carence affective et des conséquences que cela pouvait avoir sur les enfants au niveau du cerveau. Et donc Marie-France Gisard nous emmènera justement dans cette étude des empreintes traumatiques précoces, enfin plutôt dans la manière d'accompagner des personnes qui ont des troubles de l'attachement. Et puis ensuite, nous aurons deux intervenants sur une même table ronde qui ont déjà présenté leur modèle dans les colloques précédents, donc l'IFS et l'ICV, intégration du cycle de la vie et Internal Family System. Donc ils reviendront nous en reparler et on mettra en perspective ces deux méthodes pour bien comprendre comment elles agissent différemment, avec des affinités différentes selon les pratiques de chacun, pour accompagner des personnes en situation de trauma ou autre. Et puis ensuite, on commencera l'après-midi à aller plus vers la conclusion du colloque pour savoir si finalement, au-delà de ce trauma, est-ce que, pour répondre à la question finalement, est-ce que l'être humain est un être traumatisé en quête de sens? Comment le trauma peut faire sens aussi, même quand sur le moment du vécu traumatique, on ne peut pas faire sens sur le réel? Mais comment finalement, à la sortie d'un trauma, on peut faire un nouveau sens, retrouver un nouveau sens à sa vie? Voilà, ça sera, on va ouvrir plus large sur notre humanité, donc dans cette dernière partie du colloque. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je laisse la parole à Cyril Tarquignot. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc merci d'être là, car je sais que vous avez eu un grave souci personnel, un décès très proche. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir accepté quand même de venir ce matin. Justement, nous sommes dans le traumatisme, le deuil. Donc vous êtes psychologue, docteur en psychologie, professeur et donc vous êtes aussi clinicien, psychothérapeute. Vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, à Metz. Et vous dirigez une équipe, alors une unité que vous avez appelée APMAC, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous nous le direz, j'espère, en tout cas dont la problématique principale est l'étude de la maladie chronique. Vous êtes directeur d'un master de psychologie de la santé et psychologie clinique, et vous avez créé plusieurs diplômes universitaires, dont un qui nous intéresse plus particulièrement ici, qui est dédié à l'EMDR, la psychothérapie, à la formation consacrée à la formation à la psychothérapie EMDR. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est comme ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Et vous avez dirigé des doctorats sur le sujet, donc EMDR et violence conjugale, EMDR et douleurs chroniques, EMDR et développement des ressources, EMDR et cancer. Et vous avez publié de nombreux articles scientifiques sur le domaine. Donc, je vous laisse nous présenter vos travaux qui nous intéressent beaucoup.
Merci, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Je vais effectivement essayer de vous parler de ce que je sais, pas grand-chose, sur la thérapie EMDR. Pas grand-chose parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais plutôt critique sur cette approche. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur la question du psychotrauma. Et à l'époque, nous étions à travailler sur la validation et l'évaluation des méthodes de débriefing sur lesquelles on a beaucoup travaillé pendant des années. Et j'avais des étudiants en doctorat qui venaient me voir avec des articles, avec cette fameuse méthode EMDR. Et puis à l'époque, je leur disais, un peu arrogant, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on ne soigne pas avec les yeux, ici on fait de la science. Et puis, à force de voir arriver mes doctorants avec des articles dans lesquels on parlait de ces travaux, publiés dans des revues dans lesquelles peut-être je ne publierai jamais, j'ai commencé à me dire que peut-être il y avait là quelque chose d'intéressant. Et j'ai fait mon job, j'ai lu. On a presque tout lu à l'époque. C'était facile, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que ça publie beaucoup, mais on suit quand même. Et j'étais toujours pas convaincu, engoncé dans des croyances et des pratiques académiques. Et puis je suis allé me former, parce que j'ai toujours gardé un pied dans la clinique, en étant universitaire. Et j'y croyais pas non plus. À l'époque, c'était David Servan-Schreiber qui animait la formation. J'intervenais souvent, sûr de ce que je savais. Et puis, j'ai essayé. Et puis, ça a marché. Ça a marché dès le lendemain, quand je suis rentré. Et à partir de là, c'était il y a un peu plus de 12-13 ans, à partir de là, j'ai réorienté toutes mes recherches et j'ai également orienté mon équipe de recherche. D'accord. Je peux le fournir à la main, oui. Voilà, pardon. Et j'ai réorienté toutes les pistes de mon laboratoire qui est composé de 14 chercheurs et 30 doctorants. À peu près, et dont un des axes majeurs est la question de la prise en charge. Je dirais que on a un objet qui est la maladie chronique, puisque mon laboratoire est en médecine. Maladie chronique autour duquel on travaille en tant que psychologue de la santé, avec des épidémiologistes et des gens qui s'occupent de santé publique. Donc on a un objet commun avec des approches théoriques différentes. Et un des objets majeurs de mon équipe de recherche, c'est l'évaluation des nouvelles formes de psychothérapie. À l'époque, la thérapie EMDR était une nouvelle forme de psychothérapie, mais on a travaillé et on travaille sur le mindfulness, MBSR, MBCT, sur ACT également. On travaille sur la spiritualité, donc des choses un peu brûlantes en France. Hein. Alors que les publications outre-Atlantique sont extrêmement nombreuses. On travaille aussi sur tout ce qui est principe actif dans le cadre des méthodes de cohérence cardiaque. Bref, notre projet, c'est quelles sont les méthodes les plus efficientes qu'on peut porter au chevet de nos malades. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le cancer, c'est les cardiopathies. Donc, c'est les événements de vie qui viennent effectivement balayer, d'une certaine manière, les gens. Le psychotrauma est une déclinaison d'un des objets sur lesquels je travaille, mais la survenue du cancer a une dimension traumatique, la survenue du diagnostic ou de la pathologie cardiovasculaire a une dimension traumatique. Donc voilà un petit peu le contexte. Et il se trouve que je me suis plus particulièrement intéressé à la question de la thérapie EMDR, puisqu'on a sorti les premiers doctorats dans le domaine et qu'on continue à les sortir. Là, on en a deux qui sont soutenus là, dans 3 semaines, un sur la douleur chronique et un sur psychologie positive et EMDR. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que je sais, ce que la recherche sait dans le domaine. Évidemment, ma perspective, elle va être plutôt orientée, quoi. Je ne peux pas tout présenter. Donc, j'ai fait le choix de certains types de travaux, d'une certaine posture, sachant que, c'est important de le préciser, ce sont des études de laboratoire, hein, ce sont des études d'universitaires, et il faut pas qu'on se mente. Ce que je vais vous présenter là, n'a rien à voir avec la réalité clinique de nos cabinets, de nos consultations. C'est bien plus compliqué dans nos consultations. Vous savez, pour inclure des sujets dans mes études, il y a de tels critères qui font que les patients qui viennent me voir, même si je consulte peu, mais les patients qui viennent me voir, je les inclurai quasiment jamais dans mes études. Parce que on veut garantir une réalité expérimentale qui fasse qu'on soit sûr que les effets qui sont observés sont liés à ce qu'on manipule et pas à autre chose. Donc, quelqu'un qui a subi une mastectomie, s'il a déjà eu des antécédents dépressifs par le passé, je ne l'introduirai pas dans mon protocole. Or, on sait bien que les gens qui viennent, c'est bien plus compliqué. Ils ont une histoire complexe. cette complexité-là, la science ne sait pas la prendre en compte. Par définition, une démarche de recherche est une démarche qui épure au maximum. Et de ce point de vue, on nous ment. Même le MDR nous ment. Le MDR nous ment quand elle nous dit, quand les chercheurs nous disent, quand les formateurs nous disent, mais oui, c'est une thérapie efficace pour la prise en charge du psychotrauma. C'est vrai, dans les recherches cliniques, dans les recherches expérimentales, c'est-à-dire dans les recherches où on a dégagé tout un ensemble de sujets pour avoir des profils qui soient épurés de tout autre parasite, historique, psychopathologique. Dans ces conditions-là, ça fonctionne extrêmement bien. Mais la réalité clinique est plus complexe que ça. Vous voyez, hein ? Ce qui n'enlève rien à la pertinence des travaux. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche amène des conditions particulières de validation de nos méthodes, quelles que soient nos méthodes. Hein ? Mais que le transfert de cette réalité expérimentale à la complexité clinique relève d'une autre logique. Mais bien sûr, on en a besoin, ceci étant. C'est-à-dire que quand je dis « on nous ment », j'exagère, je provoque. C'est-à-dire qu'on fait des raccourcis. Au fond, on ne sait pas prendre en compte la complexité de ce qui se passe dans une consultation. On ne sait pas la mesurer, on ne sait pas l'évaluer. Alors on va avoir une évaluation intuitive de ce qui s'y joue. Mais évidemment, l'universitaire ne s'y retrouve pas. L'universitaire, il a besoin de quelque chose de balisé. Donc, permettez-moi de vous montrer, de vous parler d'un certain nombre de résultats. Donc, je ne vais pas prendre ma casquette de clinicien, d'un certain nombre de résultats qui ont fait leurs preuves dans des conditions toutes particulières, qui sont ceux de la recherche. Mais en même temps, et je vais dire le contraire de ce que je viens de dire, mais en même temps, on a besoin de ces espaces de validation. On a besoin de ces espaces de validation expérimentales, contrôlés, qui permettent d'être sûr que finalement, on a bien là un principe actif quelque part. On a besoin de ces validations rigoureuses qui nous permettent d'être sûr que finalement, au fond, on agit bien sur quelque chose. Parce qu'au fond, la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on peut seulement se satisfaire d'une psychothérapie comme thériaque thérapeutique ? Qu'est-ce que ça veut dire le thériaque thérapeutique ? Le thériaque, c'était un médicament au Moyen-Âge où il y avait tellement de choses à l'intérieur qu'on ne savait pas ce qui était efficace. Et donc c'était bon pour tout. Voilà. C'est bon pour tout. Et on donnait ce thériaque thérapeutique à tous les patients pour toutes les pathologies. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la psychothérapie peut rester un thériaque thérapeutique ? Ça, en revanche, j'en suis pas sûr. Et je pense que des thérapies, une thérapie comme la thérapie EMDR, par son histoire, est venue, d'un point de vue épistémologique, bousculer le monde de la psychothérapie. Parce que elle a dû s'imposer, et elle ne s'est pas imposée en psycho, elle s'est imposée par la bande, c'est-à-dire par les travaux souvent en neuropsychologie. Les modèles qui sont les théories de la thérapie EMDR, que j'aborderai d'ailleurs pas, sont pas des théories psychologiques. Il n'y a pas de théorie psychologique. Si, il y a le pseudo-modèle du modèle adaptatif du AIP. Là. C'est un pseudo-modèle qui dit qu'effectivement, grosso modo, on est dépositaire de ressources qui font que, grosso modo, les individus vont s'auto-réparer, pour aller vite. Mais il n'y a pas de théorie, comme il y a une théorie psychanalytique, du processus thérapeutique. Comme il y a une théorie en TCC de ce qui se joue dans le processus thérapeutique. Non, les théories sont souvent, d'ailleurs, on va les chercher en neurologie. On est décalé, on n'a pas une théorie psychologique. Parce qu'au fond, la thérapie EMDR convoque les mêmes processus psychologiques que toute autre forme de psychothérapie. Mais en ce qui concerne le principe actif, elle vient convoquer là quelque chose de tout particulier. Quand je disais tout à l'heure que ça vient percuter le monde de la psychothérapie, c'est que ça impose de nouveaux canons. Ça impose de nouveaux canons à tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent aux psychothérapies. Ça pose la question qui a été, c'était un gros mot il y a quelques années, la question de l'efficacité. Aujourd'hui, on pose la question de l'efficacité. La thérapie EMDR a contribué très largement à poser la question de l'efficacité. Mais la question de l'efficacité, c'est ce qui se joue dans la démarche expérimentale, se pose une autre question dans nos pratiques cliniques, c'est la question de l'efficience. Et on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'efficience c'est autre chose. C'est effectivement comment c'est adapté, pertinent à une situation complexe et comment on sent que ça marche. Voilà. Donc moi je vais vous parler d'efficacité. Et donc l'efficacité n'est pas l'efficience. Et on revient au propos que j'évoquais tout à l'heure. Donc je vais essayer très humblement, très simplement, de vous présenter un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes d'évoquer, qui sont de mon point de vue des clés de compréhension de ce qui se passe dans cette thérapie EMDR. D'abord, je présenterai quelques classiques, des travaux classiques, qui montrent, et au fond, si je suis là, c'est que c'est déjà presque acquis, que la thérapie EMDR est efficace dans la prise en charge du psychotrauma. Là, j'ai regretté de ne pas être hier avec vous et de ne pas parler avec Louis Croc, que j'aime beaucoup, parce que c'est une simplification que de réduire le psychotrauma à l'état de stress post-traumatique. Le psychotrauma, c'est le spectre psychotraumatique est bien plus large. Donc la thérapie EMDR, soyons humbles, a montré une efficacité dans la prise en charge de l'état de stress post-traumatique, mais n'a pas montré, en ce sens, une réponse dans le champ du psychotrauma. C'est-à-dire, vous savez, il y a parfois des gens qui sont traumatisés qui ne manifestent pas de stress post-traumatique. Ils vont manifester autre chose. C'est un syndrome douloureux. Ils vont manifester des pseudo-crises d'épilepsie. Donc, l'expression psychotraumatique est bien plus large que l'ESPT. Moi, je vais vous parler du classique ESPT. Voilà. Et effectivement, l'EMDR est intéressant. Je ne suis pas en train de faire une critique en ligne de l'EMDR parce que j'y consacre ma vie. Justement, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous amener à dépasser aujourd'hui là où l'EMDR se trouve. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, j'insisterai aussi sur le fait que moi qui étais critique, qui le suis encore, moi la question c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et quand ça marche, pourquoi ça marche? Et ça on a du mal à savoir pourquoi ça marche, c'est compliqué. C'est pas parce qu'on va dans le cerveau qu'on est plus sûr de nous. Évidemment, quand je change mon rapport au monde, entre la fin et le début d'une thérapie, c'est qu'évidemment quelque chose s'est passé dans le cerveau. Pas la peine de faire 3 doctorats pour comprendre ça. Donc qu'on l'observe, tant mieux. Mais ça ne nous dit toujours pas ce qui se passe. Ça apporte une pierre supplémentaire. Mais, je veux dire, voilà, moi je vais vous montrer des trucs sur le cerveau, je ne suis pas toujours sûr, d'abord je ne suis pas un grand spécialiste du cerveau. Voilà, on voit que ces trucs ils s'allument. Bon, super. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, dans certains courants, on parle d'insight. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors les gens ils disent, il élabore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qu'il y a derrière, voyez? Alors ça, on se casse la tête là-dessus. Alors bon, je vous parlerai donc du fonctionnement cérébral parce que c'est bien de le faire. Et puis parce que c'est quand même intéressant. C'est une variable dépendante, ça rappelle vos études de psycho. C'est une variable dépendante importante, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le vécu subjectif du patient, c'est-à-dire, oui, moi je me sens mieux, c'est qu'on montre quelque chose s'est passé. C'est intéressant quand même. Donc on verra qu'il y a des trucs qui se passent, et il y a des théories que j'aborderai un petit peu, qui sont développées dans le champ de la thérapie EMDR, qui sont neurologiques, mais passionnantes, qui impliquent de comprendre comment ça fonctionne un neurone, quoi, vous voyez. Donc la question, c'est que quelque chose se joue là, ça c'est sûr. Puis moi, je vous parlerai aussi de moi, ce qui vraiment m'excite, quoi. C'est, au fond, d'accord, ça marche bien, la thérapie EMDR, mais on ne va pas passer notre vie à montrer que ça marche bien dans l'état de stress post-traumatique, quoi. Est-ce que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines? Est-ce qu'il y a d'autres champs dans lesquels on peut travailler sur cette question? Et puis, l'autre truc, mais là, je l'aborderai à peine, c'est que l'EMDR seul, on ne fait rien, quoi. Ça ne suffit pas. On ne peut pas être un type seulement formé à l'EMDR qui passe sa vie à faire ça. Pas possible. Il faut toujours, mais dans toutes les approches, il y a des travaux extraordinaires qui datent des années 80-90 où au fond, on se rendait compte, quand on comparait des gens d'orientation psychodynamique, d'autres gens d'orientation plus thérapie cognitive ou comportementale, qu'au fond, les gens, ils se revendiquent d'une approche plus d'un point de vue identitaire que du point de vue de la pratique. Et que la pratique, elle est souvent très intégrative. Et que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, au fond, une thérapie comme celle-là peut s'instruire dans une perspective intégrative. Je prends l'exemple du cancer. Il y a des moments avec les patients, on va faire de l'EMDR, il y a d'autres moments, on va faire autre chose. Et cette convocation d'approche composée, composite, intégrée, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et le propre de la pratique clinique. Vous voyez, rien que ces questions-là, on ne sait pas les évaluer. Donc, j'essaierai de vous dire un petit peu ce sur quoi, en tout cas, mon équipe travaille et ce sur quoi, aujourd'hui, dans le champ de la santé notamment, parce que je pense que là, il y a une vraie piste. Les choses semblent se développer. Voilà, puis je conclurai rapidement. Alors, je disais tout à l'heure, quelques classiques. Effectivement, je vais vous présenter des résultats qui sont classiques. C'est souvent des résultats des 10 dernières années. Et là, c'est une étude qui, pour certains, peut-être, elle est connue, hein, où on compare la thérapie EMDR à une thérapie de l'exposition. Bon. Alors souvent, on retrouve un peu les mêmes standards, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de sessions. Donc là, c'était 6 sessions de 90 minutes. C'est des victimes de violences, de viols. Et on essaie de voir effectivement quel résultat ça donne. Alors d'abord, vous observerez, vous allez voir, c'est une constante. Mais c'est une constante parce que c'est difficile de monter des protocoles de recherche avec beaucoup de sujets. C'est souvent des protocoles de recherche avec peu de sujets. Et ça pose chez nous un problème de puissance statistique. C'est-à-dire qu'en fait, on va montrer que ça marche, mais les résultats, ils sont pas assez puissants parfois, hein. Et ça, c'est une constante parce que ça coûte extrêmement cher de monter des protocoles. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur une étude comme celle-là? On voit. Alors, j'avais un pointeur, mais je l'ai oublié. Donc, on voit effectivement en haut le score de PTSD, donc de l'état de stress post-traumatique, et en bas, le BDI, c'est un score de dépression. Et on montre qu'effectivement, de façon statistiquement significative, hein, indiscutable, eh bien, en EMDR, on baisse le score, c'est-à-dire qu'il est plus faible, 9 contre 15, hein, on gagne quand même 6 points de différence. Et de la même manière qu'on a 5 points de différence à peu près, hein, entre les deux scores, entre EMDR et puis l'approche en exposition. D'abord, vous noterez, mais ça, on y reviendra, une chose vraiment très importante, c'est que quand la thérapie EMDR est comparée à d'autres thérapies, elle est soit aussi efficace, soit un peu plus efficace. Mais on n'a jamais montré que les autres thérapies n'étaient pas efficaces. Elles sont peut-être moins efficaces. La question, c'est encore qu'est-ce que j'appelle efficace? Mais si on valide les effets de la thérapie EMDR, on n'invalide pas pour autant les effets des autres approches. Alors, un autre résultat qui a souvent été utilisé, voire un petit peu parfois manipulé, c'est la rapidité de la thérapie EMDR. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où il faut tout faire vite. On court, on fait vite sa conférence, on fait vite ses cours, on va vite chez le psychologue, il faut vite que ce soit fini, on fait vite l'amour, alors on s'assoigne, hein, maintenant. Donc, il faut aller vite. Et effectivement, un des arguments, mais au fond, un peu fallacieux quand même, parce que moi, j'ai rarement des situations où je boucle la thérapie. Si j'ai un stress post-traumatique comme dans mes manips, très simple, en 2, 3 séances, oui, c'est vrai que c'est réglé. Mais souvent, on sait bien, c'est rare quand on a des patients comme ça, c'est plus compliqué, hein. Et donc, on a montré, et on montre très souvent, c'est vrai, que ça va un peu plus vite. Et là, dans cette étude, vous avez 7 patients sur 10, je crois, je ne sais plus, en tout cas, qui, effectivement, 70%, donc 7 sur 10, hein, parce que 70%, ça donne toujours un impact important, 7 sur 10 qui sont traités au bout de 3 sessions, d'accord? Alors que pour la thérapie d'exposition, il n'y en a que 2 sur 10. Donc, effectivement, on observe qu'il y a quelque chose qui s'active. Je dirais qu'il y a un principe actif dans cette approche, à n'en pas douter, hein, ça c'est sûr, qui qui fait que ça active quelque chose plus rapidement, plus directement que dans les autres approches. Ça, on l'observe. Une autre étude, un peu plus complexe. C'est une étude, effectivement, qui a été réalisée auprès d'anciens combattants avec ESPT. Et là, on compare, ça c'est le standard, pour considérer qu'une psychothérapie fonctionne, on la compare à trois groupes généralement. C'est-à-dire, on a le groupe qu'on veut évaluer, le MDR, un autre groupe d'une autre approche, et puis un groupe contrôle. Et donc là, les patients entre les trois groupes sont tous identiques. C'est là les critères d'inclusion. On a essayé d'évaluer les résultats. Et cette fois, vous voyez, on n'est pas sur trois sessions, quatre sessions. Cette fois, c'est 12 sessions. Ah, c'est autre chose déjà. Hein, c'est autre chose déjà. 12 séances de 90 minutes. Ça correspond déjà à une espèce de réalité clinique. Hein, donc, voilà les résultats. Là aussi, hein, indiscutables. Vraiment, résultats qui disent j'ai arrondi. C'est pas 53 piles, il y a des virgules, mais lors de l'évaluation des trois groupes avant de rentrer en thérapie, et heureusement, ils ont le même résultat. L'IES, ça mesure le psychotrauma. C'est une échelle classique. L'IES, c'est l'Impact Event Scale. C'est une échelle vraiment celle qu'on utilise mondialement. Il y en a une version française. Souvent, on l'utilise en cabinet. Ça permet effectivement de faire un diagnostic. C'est très DSM. Hein. DSM-4, puisque le DSM-5 a réintroduit des paramètres assez intéressants d'ailleurs. Donc, avant la thérapie, on fait notre mesure et évidemment, ils ont le même score, ce qui veut dire qu'on a bien fait notre boulot, c'est-à-dire que les sujets, c'est les mêmes. Et puis après, on mesure, après la session donc de relaxation de psychothérapie, et quand même, les résultats sont significatifs, entre 53 pour le brun foncé et 35, on a une vraie baisse significative. Mais on a aussi une baisse significative sur la relaxation. Entre 53 et 45, c'est significatif. Mais c'est moins significatif que pour le MDR. Mais ça ne veut pas dire que la relaxation, il faut la mettre à la poubelle. Hein? On voit bien que ça a aussi des effets différents. Bon. Mais vous aurez aussi noté que mon groupe contrôle aussi a baissé. D'accord? Voilà, ça c'est classique. C'est pour ça qu'on fait des suivis, parce qu'il y a une évolution du patient. Et parce qu'on sait qu'il y a aussi des résorptions des symptômes avec le temps. D'accord? En fait, il y a tellement de choses qui sont convoquées dans la psychothérapie, je veux dire que, et dans la vie, qui font que parfois il y a des choses qui font que les patients guérissent. Vous le savez bien, il y a parfois des patients, ils viennent une fois, deux fois, trois fois, ils viennent la quatrième fois, ils vont mieux, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et ils vous disent merci, alors vous êtes content. Mais vous vous dites, mais c'est mes doigts, c'est le cabinet, c'est. Et donc, bah, vous dites de rien, puisque ça vous renforce narcissiquement. Mais vous ne savez pas ce que vous avez fait. Voilà. Et ça nous arrive, quoi. Hein? Donc, bah, voilà, bah, c'est aussi une réalité. Hein? Et 3 mois après, ça qui est intéressant, c'est que les effets continuent. C'est-à-dire que ça se maintient, ça se stabilise. Donc, il n'y avait pas de suivi du groupe contrôle dans cette étude. Mais ça se stabilise. Et ça, c'est une constante. C'est-à-dire que l'évolution des résultats avec la thérapie EMDR, persiste dans le temps, hein, de façon très forte, avec même quelque chose qui a, dans tous les travaux que je lis, avec quelque chose qui est même une baisse avec le temps. Comme si on activait, c'est pas comme si, mais je vais dire comme si on activait quelque chose qui restait fonctionnel, qui restait actif et qui contribuait à accompagner le patient. Un rapport aux choses, un type de traitement de l'information, un type de rapport au monde. Vous voyez, je peux décliner ça à l'infini, selon mon posture théorique. Hein. En tout cas, quelque chose persiste. Et il y a quelque chose qui continue à s'abaisser. Ça, on le retrouve très souvent. BDI, dépression. C'est une échelle de dépression classique aussi. Et là, vous voyez, même chose, on a des effets intéressants. Sauf que, soyons attentifs, quand on mesure de la dépression, c'est compliqué parce que dans le cadre du DSM-4, dans le symptôme C, on a un volet qui sont des symptômes dépressifs. Donc, c'est généralement chez les victimes, on va mesurer stress post-traumatique, dépression, troubles anxieux, ce sont des troubles réactionnels. C'est-à-dire que cette dépression-là n'a rien à voir avec d'autres formes de dépression pour lesquelles on n'arrive pas à identifier un commencement, hein, lié à un événement. Hein. Donc on est vraiment, et c'est sans doute ça la force de mon point de vue de l'EMDR, c'est son efficacité globale sur les troubles réactionnels. Donc, et un effet qui se maintient. Une autre étude qui a concerné, un peu plus récente, mais j'ai oublié de mettre la date, mais c'est pas grave, qui a concerné effectivement la prise en charge de salariés dans les transports publics. Cette fois, on utilise une méthode assez intéressante qui est la liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est pris en charge et un deuxième groupe qui attend qu'il soit pris en charge. Il est groupe témoin, en fait. Hein. Je vous en parlerai parce que je vous présenterai une étude qu'on a faite là-dessus. Et là aussi, on a des résultats vraiment intéressants, conformes. Vous voyez, c'est presque redondant. C'est-à-dire qu'on a ces scores-là au début, et puis on a ces scores-là après la prise en charge, donc on a une vraie diminution, une vraie baisse effectivement des scores. HMA, c'est aussi une échelle qui mesure l'anxiété, donc c'est tout. Hein. Donc on a toujours les mêmes, on mesure toujours dans les études quasiment les mêmes choses avec grosso modo les mêmes outils, état de stress post-traumatique, dépression réactionnelle, trouble anxieux, ou TAG. Troubles d'anxiété généralisée, c'est souvent ça qu'on mesure. Et puis, on regarde les effets, et ben voilà, pour la dépression, on doit avoir pour l'anxiété, on doit avoir la dépression, on a à peu près les mêmes types de résultats. Donc, on a quand même des résultats qui sont encourageants. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas des résultats comme ça, on arrête de travailler. Hein. Donc là, on a quelque chose qui nous dit... Ouais, là, on a du biscuit. Il y a quelque chose qui se passe dans cette thérapie. Hein. Et ça mérite de comprendre et d'aller plus loin. Il y a sans doute là quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres formes de thérapie. Hein. Mais en même temps, il y a forcément aussi des... On n'a pas attendu l'EMDR pour soigner hein, non plus. Hein. Donc ça aussi, hein, on a aussi parfois tendance à réinventer l'eau chaude. Quoi. Mais on n'a pas attendu l'EMDR pour soigner le trauma. On n'a pas attendu les psychothérapies du XXe siècle pour faire des psychothérapies. Dans toutes les sociétés, il y a des gens qui sont... Ils ne s'appellent pas comme ça, des psychothérapeutes. Donc cette dimension-là, elle existe. Et ça marche. Et de ce point de vue, la question c'est quelle est la plus-value de cette approche ? C'est ce qu'on va essayer de discuter aussi un petit peu. Alors ça c'est une belle étude puisque c'est la nôtre. Il y a qu'on a fait il y a 2 ans sur les violences conjugales. Et donc on comparait cette fois une thérapie EMDR avec une thérapie éclectique. C'est quoi éclectique ? C'est on disait aux psy, faites comme vous faites d'habitude. Voilà, faites comme vous faites d'habitude. On laissait faire. Donc, ils faisaient de la thérapie verbale, ils pouvaient faire de la relaxation, sauf qu'ils ne faisaient pas de MDR parce que ce n'était pas des thérapeutes de MDR. Donc, et groupe contrôle. Et voilà un petit peu les résultats. Donc, dans la phase de pré-traitement, donc c'est avant, donc il n'y a pas de différence entre les 3 groupes, même s'il y a des petits décalages, il n'y a pas de différence statistique. On observe après traitement, après 5 séances, ben, en fait, que les patients reviennent à un seuil normal. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence. Et on observe également après 3 mois que les choses se maintiennent. On a également pour l'anxiété, même type de résultats. On retrouve hein, à chaque fois hein, les mêmes types de résultats. C'est parfois pas les mêmes outils, mais c'est les mêmes types de résultats. Donc on montre que la thérapie EMDR marche, mais on montre aussi que la thérapie éclectique marche un peu moins bien. Mais elle marche. Les effets sont moindres, c'est vrai. Et pour la dépression aussi. Et vous voyez que par rapport au groupe témoin, la thérapie éclectique, c'est-à-dire ça marche. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Sur certains paramètres, d'ailleurs, il n'y a pas de différence significative. Mais voilà. Donc, il y a quelque chose dans cette approche, pour en finir avec les classiques, ça c'est des études classiques au fond, c'est-à-dire qu'il y en a fait encore, hein. C'est un petit peu embêtant d'ailleurs qu'on en fasse encore, parce qu'on a montré aujourd'hui, hein, il y a plus d'une vingtaine d'études contrôlées randomisées, un peu sur le même design. Aujourd'hui, la question de savoir n'est plus de savoir est-ce que ça marche ou pas, thérapie EMDR, c'est une fausse question, alors c'est une question démagogique. Aujourd'hui, on peut affirmer que dans les études, les mots sont pesés, hein, que dans les études contrôlées randomisées, on a montré depuis plus de 10 ans maintenant que la thérapie EMDR était une approche efficace, les mots sont pesés, susceptible de réduire voire de faire disparaître les symptômes de l'état de stress post-traumatique mesuré dans le cadre du DSM. Voilà. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ça fonctionne. D'accord ? La question aujourd'hui qui se pose, c'est pourquoi ça marche ? C'est ça la question. Alors, quand on est... ma femme est psychologue aussi, thérapeute, elle me dit, mais moi je m'en fous pourquoi ça marche. Principal, c'est que ça marche. Et c'est, voilà, et c'est là où s'arrête l'intérêt entre le clinicien et le chercheur. Au fond, la médecine est faite de ça. Hein. Il y a eu des tas, il y a plein de choses en médecine, on utilise, on a utilisé, et on ne savait pas exactement pourquoi ça marchait. Donc au fond, dans notre pratique, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On utilise des trucs, on ne sait pas vraiment ce qu'on convoque dans notre psychothérapie. Hein. On contrôle certains trucs, mais il y a tellement de paramètres qui sont là. Et le principal, c'est que ça marche, au fond. Bon. Mais c'est important quand même de comprendre pourquoi ça marche. Hein. Alors, je ne vais pas répondre pourquoi ça marche, parce que je ne serai pas là. Je veux dire, je serai riche, ou je ne sais pas, vous voyez, même pas, mais je veux dire, c'est si, sans doute. David Servan-Schreiber disait il y a un prix Nobel à la clé. C'est sans doute, hein, le jour où on trouvera ce qui s'y joue. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on active. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ce particularisme est propre à cette thérapie EMDR, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui naturellement est activé plus ou moins directement par les autres formes de thérapie. Parce que je vous l'ai dit, regardez, l'éclectique fonctionne aussi. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose de similaire qui est activé par le MDR et l'éclectique. Ça touche à quelque chose de comparable, de similaire. Alors peut-être qu'on y accède plus directement avec la thérapie EMDR. Ou alors, est-ce que c'est vraiment deux choses radicalement spécifiques ? Ça voudrait dire qu'en fait, il y a différents types de principes actifs. Vous voyez, ça pose des vraies questions. Hein. Mais c'est important parce qu'en même temps, comprendre qu'est-ce qui s'y joue aura un effet sur la clinique. Parce que je crois sincèrement que la thérapie EMDR, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais d'autres aussi qui se sont engagés dans cela, va nous amener et nous amène déjà à re-questionner foncièrement notre manière d'exercer le métier, foncièrement. Donc évidemment, ça n'intéresse pas le clinicien au premier abord, mais forcément, ça a des effets sur la clinique parce que rien que le développement de nouveaux protocoles, grâce à ces compréhensions-là, va nous permettre d'optimiser la clinique. Donc c'est quand même important de savoir. Alors je vais essayer de vous donner quelques éléments. Je ne suis pas un grand spécialiste hein, de ces histoires-là, mais je vais essayer de vous raconter ce que je sais. Quoi. Qui montrent que ben, voilà, il y a quand même des trucs bizarres qui se passent quand on fait de la thérapie EMDR. Alors les trucs que vous savez, parce que hier vous avez eu, et je regrette de l'avoir loupé, une intervention sur le fonctionnement cérébral, donc je vais vous donner quelques éléments. Mais il y a des trucs qui se passent, et c'est étonnant. Et bon, moi j'étais le cul par terre, quoi. Hein, je veux dire, avec certains de patients au labo, où effectivement, on démarrait dans ces histoires-là, et effectivement on observait des trucs étonnants, on ne comprenait pas. On comprend pas ce qu'on fait. Bon, franchement, quand on fait ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a un truc qui se passe, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, c'est une forme de néo-béhaviorisme, quoi, d'une certaine manière. On fait ça, il y a la boîte noire et il y a la réponse. Ben, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire, mais c'est vachement intéressant parce qu'il y a un enjeu. Là, les gens vont mieux. Quoi. Ça, tout le monde le voit. Quoi. Vous aussi, hein, les gens vont mieux. Ah merde, pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais vous présenter des petits résultats. Hein. C'est plutôt sympathique, quoi. Ben, alors il y a des gens qui ont du matériel, nous on en a un petit peu aussi, et qui permettent, et on fait des mesures, c'est très rigolo à faire, on fait des mesures, alors vous avez les patients, alors souvent c'est nos étudiants qui font ça, donc on fait des petites situations, on travaille sur par exemple l'appréhension des examens, c'est très léger, alors on s'arrange pour avoir des étudiants qui vont pas trop mal, quoi. Donc on les inclut pas dans nos études, on prend pas de risque, donc on fait des petits trucs de préparation aux examens, et puis on essaye de voir ce qui se passe, donc c'est très léger. Et puis on met plein de capteurs. Alors ils ont des capteurs là sur le torse, ils ont des capteurs au poignet. Alors, ils peuvent même plus bouger. Hein, mais c'est comme au cabinet, quoi. Donc, voyez, c'est un autre monde. Hein, ouais. Mais en même temps, c'est important. Hein. Donc, Et donc, on mesure des choses. Par exemple, on mesure la fréquence cardiaque. La zone grisée, c'est quand on fait les mouvements oculaires. Vous voyez? Ben, on voit qu'il y a une baisse du rythme cardiaque. D'accord? Donc, on va observer en fait que cette activité-là, j'en dirai deux mots tout à l'heure, pour ceux qui connaissent un peu la cohérence cardiaque, c'est plutôt la variabilité sinusale. La cohérence cardiaque, c'est le nom populaire, quoi, hein. Ça agit sur le système parasympathique. Voilà. Et ça, on l'explique assez bien. Donc, il y a une baisse du rythme cardiaque. Là, on retrouve les mêmes résultats. Vous avez la fréquence moyenne en pré-stimulation à 78, et vous avez le rythme cardiaque qui baisse pendant les stimulations, vous voyez, de façon assez significative, hein. Là, vous voyez les petites étoiles, ça veut dire que c'est significatif, mais vous ne cassez pas la tête. Et puis, regardez, il y a un autre résultat qui est vraiment intéressant, c'est celui-là. Alors, celui-là, vous avez l'impression de ne pas le connaître, RMSSD. En fait, quand vous vous mettez un Holter, votre cardiologue, il mesure ça, entre autres. C'est la mesure de la variabilité sinusale dans ce qu'on appelle les mesures temporelles. Vous savez, vous avez acheté, sans doute pour certains d'entre vous, des petits capteurs qu'on met là pour mesurer la cohérence cardiaque. Hein, c'est ce qu'on appelle de la mesure spectrale. C'est des calculs mathématiques très compliqués. Et ça, c'est une autre mesure de la présence d'une activité parasympathique. Et donc, on voit qu'effectivement, eh bien, il y a au début de la stimulation, une augmentation de l'activité parasympathique. Donc, il y a des choses qui se passent sur le plan physiologique. Je vais vous en donner d'autres là. Donc, c'est un autre chercheur qui est vraiment brillant, c'est Elofsson, qui a fait des travaux vraiment intéressants. Et ça, toute la période grisée là, c'est quand on fait les mouvements oculaires. Et à chaque fois, et la courbe là que vous avez, c'est la courbe de température de la peau. Eh bien, à chaque fois qu'on fait des mouvements oculaires, eh bien, la température tend à augmenter. Donc, ça veut dire que y a quelque chose qui se passe au niveau de la régulation de certains paramètres neurophysiologiques. Alors, on a toujours des mal avec cette mesure parce que c'est dur de mesurer il faut du bon matériel pour mesurer la température de la peau. Mais de toute façon, on voit quasi systématique, à chaque fois qu'on fait les mouvements oculaires, la température augmente. Pareil, là je n'insiste pas, LF sur HF, là c'est ceux qui connaissent la mesure spectrale, c'est aussi le rapport entre activité parasympathique et activité sympathique, et en fait, plus c'est important, plus on a une domination du parasympathique. Donc ça veut dire qu'il y a une régulation psycho-émotionnelle. Donc vous voyez, j'ai été vite, hein. Donc on montre que sur cette dimension-là, eh bien, d'un point de vue neurophysiologique et psychophysiologique, bah, c'est foutu mouvement oculaire. Ben, ils ont des effets, quoi, hein. Ils ont des effets. Alors le problème, c'est que la thérapie EMDR, c'est pas que des mouvements oculaires maintenant. C'est du tapping, c'est des stimulations auditives. Là, j'ai pas vu des résultats similaires, je sais pas. Mais là aussi, c'est un vrai mystère, hein. Moi, autant j'étais bien dans mes baskets avec la thérapie, avec les mouvements oculaires. Autant avec le tapping et les mouvements tactiles, les mouvements auditifs, bah, il y a des résultats. Et alors là, tout s'effondre à nouveau. C'est-à-dire qu'il faut repenser le modèle. Vous voyez, on est toujours en décalage, quoi. Alors pour la plupart, c'est bien, ça fonctionne, oh, super. Mais ça a introduit de la complexité. Qu'est-ce qui fait que ça marche alors? Quel est le lien entre les... Alors évidemment, on va me sortir des trucs très métaphoriques. À chaque fois, aux questions que je pose ou qu'on pose, on a des réponses métaphoriques quand on parle de MDR. Hein? Mais d'ailleurs, ce n'est pas choquant.
Je vais vous demander de conclure parce qu'on arrive à la fin.
Ah, excusez-moi, mais j'ai pas fini.
C'est bien dommage.
Alors, bon, il faut que je zappe alors. Non, je vais pas zapper. Allez. Alors, voilà, je vais. Alors, l'amygdale. L'amygdale, grosso modo, c'est les émotions. Ça, vous avez vu, hein. Donc, on vous a montré qu'effectivement, quand on était victime de stress post-traumatique, on avait, voilà, la taille de l'amygdale était, le volume était 3 fois plus grand que pour les sujets normaux. Autre résultat, très simple, vous allez voir, l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est tout ce qui joue un rôle dans les fonctions d'apprentissage. C'est on va dire que, on ne sait pas là aussi, hein, on a dû vous raconter ça, dès que c'est atteint, il y a des fonctions mnésiques il y a des problèmes. Mais on ne sait pas. Parce que parfois c'est parfois la partie gauche de l'hippocampe, parfois la partie droite, parfois c'est les deux. Donc on n'arrive pas réellement comprendre. En tout cas, plus un patient, un soldat ici est exposé, c'est la ligne des X au combat, plus la taille de l'hippocampe semble diminuer. Voyez? Donc l'accumulation psychotraumatique a des effets. Vous voyez là, vous avez une autre image. J'accélère un petit peu. Hein. Là, on a également un autre paramètre qui est le gyrus singulaire. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle le circuit subcortical frontal. Toute cette zone-là, vous voyez, c'est là où il y a le montré, là. Hein. Et en fait, c'est ce qui va permettre la régulation de certaines activités cognitives. Gardez ça en tête, notamment la flexibilité mentale. C'est-à-dire que c'est toutes les stratégies qui permettent de changer, les stratégies qui permettent de modifier son rapport aux choses, sa tâche. C'est également la mise à jour, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va reformater le logiciel. Donc, plus cette dimension-là est active, plus on est capable de se réajuster par rapport aux événements de vie. Et regardez, là, on voit bien que chez les sujets qui sont en bas, hein, PTSD, donc état de stress post-traumatique, eh bien, c'est éteint. Et justement, nos patients traumatisés sont dans l'incapacité de reconsidérer le rapport à l'événement. Ils sont comme... Il y a une espèce d'assèchement. On n'est que dans l'émotion et pas dans la... Regardez, on demande à un patient de fermer les yeux, de revenir sur la scène. Là, ici, maintenant, il devrait être en sécurité parce que là, ici, maintenant, je suis avec lui. Et il revient sur la scène et cette scène vient encore le perturber. C'est comme s'il y avait une impossibilité à reconsidérer les choses. Eh bien, c'est notamment lié à ce circuit subcortical frontal. Bon, je passe. Et puis, il y a un autre résultat vraiment intéressant, c'est l'épaisseur du cortex préfrontal qui diminue aussi chez les victimes. Hein. On le voit, là, plus il y a de bleu, plus l'épaisseur, effectivement, du cortex diminue. Bref, je passe. Alors, en EMDR, on a essayer de montrer si effectivement ça avait des effets. Et qu'est-ce qu'on observe? Regardons rapidement. Vous voyez, regardez désactivation, activation. On se rend compte qu'après le MDR, y a une activation. Tout ce qui est activation, c'est justement toute cette partie qui était désactivée chez les victimes. Eh bien, le MDR semble réactiver, remettre en route cette flexibilité de ce circuit subcortical frontal. C'est-à-dire qu'il y a une reconnexion à l'ici et maintenant. Et justement, il y a en plus, on va le voir ici, et en plus, il y a ça c'est une étude de collègues italiens, ils montrent qu'après la thérapie EMDR, on voit là, sur l'hippocampe, hein, on voit qu'il y a une augmentation post-pré, hein, on a une augmentation du volume de l'hippocampe. C'est-à-dire que le fait de traiter en EMDR, eh bien, active quelque chose qui reconfigure, potentialise la flexibilité cérébrale. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, je pense que c'est le cas de tout processus de guérison dans le cadre de nos psychothérapies. Mais là, on a quelque chose, effectivement, qui vient le montrer. Regardez, là, on a effectivement une image assez intéressante. Bref. Je peux encore avoir 5-10 minutes? Ouais, voilà. Alors,
vous aurez moins de pauses.
D'accord. Donc, dernier point. Aujourd'hui, ce que je disais, c'est que voilà, je crois que la thérapie EMDR, mais je crois aussi au mindfulness, je crois aussi à la spiritualité. Je fais soutenir dans quelques mois une thèse sur prière, spiritualité, santé et maladie. On a mesuré ça. Hein. Donc, je crois effectivement qu'il faut saisir d'un point de vue, je suis un pauvre universitaire, d'un point de vue un peu expérimental, ces choses. Que le sens commun et puis que l'expérience clinique nous montre que ça fonctionne et comprendre pourquoi. Mais je pense que la thérapie EMDR, évidemment, je disais, pour moi, la question elle est idéologique. Bien sûr, ça marche. La question, c'est pourquoi ça marche. Et aujourd'hui, ma question, c'est dans quel contexte on peut la faire fonctionner au-delà du sacro-saint ESPT. Parce que, ok, d'accord, on a montré que ça marchait. Maintenant, où ça peut nous servir? Alors, on a essayé de développer des choses. D'abord, on a développé toute une problématique autour d'événements récents et de protocoles récents. Alors, il y a tout un ensemble de chercheurs qui ont développé des protocoles récents. C'est-à-dire, parce qu'on était confronté à des problématiques comme ça. On nous demandait d'intervenir dans des braquages, des prises d'otages, des choses comme ça, des choses que vous connaissez. Et souvent, on intervenait sur les lieux dans les heures qui suivaient. On avait une convention, par exemple, avec Arcelor au Luxembourg, Arcelor en France. Et donc, dès qu'il y avait un accident du travail, on intervenait parfois dans les heures qui venaient. Et évidemment, on nous faisait à l'époque du débriefing, des fusings. Et il y a plein de gens, très tôt, dès 1995, Shapiro a essayé de travailler sur des protocoles événements récents. Et donc, beaucoup de protocoles sont développés. Et on a aussi contribué à ça. Et là, on a, je pense, un outil qui, dans les années à venir, va rendre archaïque le débriefing. Va rendre archaïque le débriefing. Un débriefing dont on sait qu'il a une fonction de désamorçage, de ventilation. Mais c'est bien de ventiler les émotions, on en parlait tout à l'heure. Je n'ai pas envie d'être provocant. C'est bien de ventiler les émotions. Ça fait du bien, on est d'accord. Mais c'est comme moi, tous les matins, je vais faire pipi. Ça me fait du bien, mais tous les matins, j'y retourne. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et de ce point de vue, on a là des protocoles à ajuster qui, dans ces situations d'urgence, peuvent effectivement être d'un grand intérêt. Alors, il y a quelqu'un que j'adore, moi, parce qu'il a initié ces coûts, qui a été confronté au terrorisme et qui a développé un des premiers protocoles que je trouve vraiment un des plus solides. Après, il a été repris et développé par Hélène Shapiro sur le RTEP. Et effectivement, il a développé des protocoles vraiment light, quoi. On fait l'économie de tout ce qu'on sait sur la thérapie EMDR et on agit vraiment de façon très simple. C'est du one shot, c'est une séance, mais c'est dans les heures qui suivent. Et il montre le sud, c'est un indice de détresse. C'est ce qu'on a beaucoup dans nos thérapies EMDR, d'ailleurs qui n'est pas propre de la thérapie EMDR, c'est un niveau de détresse entre 0 et 10. Là, vous avez des suds de 7,5 à 8,2 pour des gens qui ont répondu immédiatement à la thérapie, qui ont répondu de façon substantielle, et en bas, vous avez des gens qui n'ont pas répondu, parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Et parmi les gens qui ont répondu, on voit qu'après traitement, une séance, c'est moins d'une heure souvent, on arrive à abaisser le sud fortement. D'accord, c'est quand même intéressant. Et puis, on arrive à avoir un sud qui se maintient 4 semaines après et 6 mois après, sauf qu'après 6 mois, dans cette étude, le sud est un peu remonté. C'est pas une thérapie. Ça peut avoir la fonction d'une prise en charge d'urgence, mais il faudra y adjoindre une prise en charge plus lourde. C'est-à-dire que ces protocoles d'urgence n'ont pas une vertu thérapeutique. Et on a publié là récemment quelque chose autour d'agressions et des accidents sur le lieu de travail, agressions sur le lieu de travail, avec des résultats. Donc on a développé un protocole aussi, parce qu'il nous correspondait bien, et qui effectivement a donné des résultats. Je passe les détails. Voilà les résultats rapidement. On avait quelque chose qui était... donc on compare une pratique éclectique avec une pratique d'urgence, de protocole d'urgence, et on arrive à baisser vraiment les résultats. Et ça, c'est encourageant d'aller en amont, d'aller avant d'être dans une démarche préventive. C'était ça l'idée du débriefing, que les aînés comme Croc, le Bigot ont voulu instiller en France et qui existait depuis la Première Guerre mondiale. C'est d'être dans une démarche préventive. Et bien là, on peut coupler une démarche préventive et effectivement presque curative. Sauf que c'est efficient pour les individus. La question c'est, et il y a des chercheurs qui réfléchissent là-dessus, c'est comment ça peut être développé un protocole de groupe. Et là, il y a des gens qui travaillent dessus et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc encore quelques petits résultats. La douleur, très rapidement, je vais passer sur ce résultat-là, parce que je ne voudrais pas non plus être impoli. Voilà, voilà cette étude-là sur la prise en charge de la douleur, où on mesure l'SF36, c'est une échelle de mesure de la qualité de vue, de vie, la dépression, l'anxiété. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que sur les différentes dimensions, le fonctionnement physique, la vitalité, etc., on arrive à une amélioration. Amélioration, ça ne veut pas dire on descend à zéro. C'est-à-dire que généralement, dans toutes les études que j'ai lues et dans les travaux qu'on a menés, on gagne 2 à 4 points de douleur. C'est beaucoup, sans médicaments. Ça ne veut pas dire qu'on ramène les gens à des niveaux de douleur de zéro, ça j'ai jamais vu. Mais on arrive à diminuer effectivement des scores de douleur, là, des scores d'anxiété, des scores de dépression, mais on n'arrive pas à zéro, notamment, regardez sur les scores de douleur, là, dans l'étude, ils passent de 8 à 6 sans médicaments, mais ça vaut la peine, vous voyez, sans médicaments. Là, c'est la thèse de mon étudiante Marie-Jo qui va soutenir bientôt. Et voilà simplement son travail, un résultat. Donc, elle a comparé un protocole standard EMDR, un protocole douleur et une thérapie éclectique. Voilà ce qu'elle montre. Elle montre en pré-test, vous voyez, même résultat. En post-test, effectivement, elle montre que ça baisse. Et elle montre que les deux protocoles EMDR, eh bien, arrivent à un niveau de 3 et 2 en moyenne, et que c'est le protocole douleur qui est vraiment le plus efficient. C'est-à-dire que c'était dans un service de douloureux chronique. Donc, avec des résultats vraiment intéressants, on gagne 3 points, quoi. C'est-à-dire, ça vaut la peine. Voilà, ça je passe parce que.
Une minute.
Voilà, donc voilà. Alors, je vais juste passer pour aller à un résultat. Alors, puisque je voulais vous parler, vous voyez, je n'ai pas du tout calculé. Voilà, ça, je m'arrêterai là. Voilà une étude qui est une belle étude sur le cancer. Voilà, on a travaillé sur la prise en charge. En fait, on a fait plusieurs travaux. Le dernier en date, c'est sur la douleur du sein fantôme. Vous savez, les deux sensations et douleurs du sein fantôme, dont je vous montrais un résultat. Et ça, c'est une première étude qu'on avait faite il y a quelques années, qu'on est en train de décrire là, où on prend en charge des patients de cancer du sein et on les suit. Sur 12 mois, et on mesure le psychotrauma, et vous voyez que. Alors, ils sont tous pris en EMDR, sauf que le groupe grisé, c'est une liste d'attente. On prend d'abord le premier groupe, et c'est dans un deuxième temps qu'on prend le deuxième groupe. Donc, on voit qu'en post-traitement, celui qui a été pris en charge, on abaisse les résultats, qu'après 6 mois, ils ont tous les deux été pris en charge, et qu'ils sont de nouveau équivalents. Donc, on a des résultats vraiment intéressants. Et puis, un dernier résultat qui ne sera même pas. Alors ça, voilà, ça c'est sur mon sein fantôme, et après, je promets, je m'arrête. Donc ces deux cas, Paul et Nora, là on a vous savez que le sein fantôme, c'est à la fois de la douleur et de la sensation. Et donc on voit qu'on a une baisse effectivement à 6 mois et après traitement du niveau de sensation et de douleur. Et regardez ça. Ça c'est les dessins, parce qu'il y avait un protocole très particulier, on leur demandait à chaque séance de dessiner leur sein dans la perception qu'elles en avaient, et de colorier en fonction de l'intensité de la douleur. Voilà. Et là, ce qu'on observe, c'est à la fin, début de la première séance, pour Paul, vous avez les seins, la couleur rouge qui est vive, et vous avez ensuite les seins amputés, hein, puisqu'ils ont été mastectomie, il y a eu une mastectomie des deux seins. Et vous avez à la fin de la dernière séance comment la thérapie EMDR reconfigure le schéma corporel. Voilà. Et on a des travaux qui ont également été initiés autour du membre, douleur du membre fantôme après amputation. Donc, vous voyez, le canora aussi, mais on n'est pas à rien, il y a encore du travail. Hein. Donc, voilà. Donc, y a des résultats vraiment intéressants. Je m'arrête là, mais effectivement, y a beaucoup de choses à raconter. Il y a des discussions à avoir sur la place de l'EMDR dans la prise en charge globale et dans l'intégration. Et je pense que l'avenir de l'EMDR aujourd'hui, c'est de pouvoir ouvrir de nouveaux champs d'investigation, parce que, encore une fois, la clinique ne se résume pas à l'état de stress post-traumatique, et que de ce point de vue-là, c'est une thérapie avec un fort potentiel, dont on ne comprend pas encore exactement comment il fonctionne, mais à n'en pas douter que les découvertes faites en EMDR alimenteront le développement de la clinique de façon globale. Voilà, merci beaucoup.
Merci, vraiment. C'était vraiment ce que nous attendions, c'était d'avoir des réponses concrètes sur ce qui se passe dans cette formidable technique. Je sens quand même qu'il faudrait que je laisse la place pour une question dans une minute. On a un quart d'heure de retard. Il y aura un quart d'heure de moins sur la pause. Mais alors, je vous demande de rassembler vos neurones pour que la question soit la plus pertinente possible, celle qui brûle dans les cerveaux. Il n'y en aura qu'une. Mais alors réfléchissez bien. C'est de l'intelligence collective non contrôlée. Je mets la pression sur celui qui va la poser. Prenez la responsabilité du groupe, là.
Merci pour votre exposé. C'est au niveau du protocole, je voudrais savoir si, quand vous proposez le MDR, vous mettez la personne dans la situation traumatique, visuellement, ou dans un ressenti corporel. ou seulement vous faites le doigt?
Alors oui, il y a toujours un travail d'exposition, c'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension d'exposition. Soit ça peut être l'événement qui a été inaugural, hein, l'agression. Donc on va revenir sur la scène. Alors on aura pris quand même la précaution de stabiliser la personne, hein. Donc ça se fait pas de façon aussi radicale. Mais oui, pour répondre très précisément, oui, on va exposer le patient à l'événement inaugural quand c'est un événement. Mais par exemple, quand on travaille sur le cancer et les sensations physiques du cancer, on va travailler énormément de choses. On va travailler parfois... Rien que ça, il faudrait qu'on discute. Vous voyez, non, rien que ça. Mais c'est parce que c'est passionnant, la question de la maladie chronique. Ça nous amène à reconsidérer énormément de choses. Mais ça va de l'annonce de la maladie en passant par la mastectomie, etc. Mais aussi, alors je réponds à la deuxième partie de la question, on va leur demander de se concentrer sur la douleur, la sensation. Voyez, donc, et là, on est très proche de l'hypnose, au fond. Hein. Et donc, on revient sur des choses comme celle-là. Hein. Mais on est très proche. Vous savez, la psychothérapie EMDR est à la croisée des psychothérapies. Hein. Elle est par essence intégrative. Et tout le monde s'y retrouve, au fond. Y compris ceux qui font de la résistance et qui me disent « Mais non, c'est pas de la psychothérapie comme... » Mes amis psychanalystes, ils se trompent parce qu'au fond, cette approche est en résonance avec la théorie psychanalytique, pas avec la pratique psychanalytique, mais avec la théorie psychanalytique. Et de ce point de vue-là, elle est en parfaite concordance. Et donc, pour répondre concrètement à votre question, oui, on expose à la situation, oui, on expose à la sensation. Donc, il y a un préalable qui est un travail de confrontation à quelque chose qui a été difficile et qui a été inaugural.
Je ne vous pose pas une question, j'ai une remarque. Merci pour votre exposé.
C'est notre président.
Merci pour votre exposé. J'ai beaucoup aimé l'interligne de votre discours, parce que vous nous livrez là, sans y toucher, une partie de l'essence de la psychothérapie et du psychothérapeute, et de la posture psychothérapeutique. Merci.
Complètement. Mais un jour, si vous m'invitez encore, je vous parlerai avec passion de la maladie chronique et du champ qui s'ouvre à nous dans, effectivement, la prise en charge de la maladie chronique. Voilà, je vous remercie.
L'année prochaine à Avignon, fin novembre, au Palais des Papes.
Rester là, non? Si Cyril il reste là? Cyril, tu restes à côté de moi?
Non, comme tu veux.
Alors, mon ordi. Alors, tu mets en route avant, parce qu'il va tout de suite après. Tu veux là, moi j'aime bien que tu restes avec moi. Ça? Mais c'est de l'autre côté. Oui, mais c'est de l'autre côté. Non, c'est de...
Non. Ah bon. C'est ici. Tu démarres ta présentation. Tu la mets en PowerPoint.
Je vais mettre parce que je n'ai pas comme tu gâches.
Tu vas gâcher. Tu es là. Ah, merde.
Donc, remets-toi en PowerPoint.
Eh oui, mais diaporama. Ne panique pas, hein, parce que...
Oui.
Hein?
Non, tout va bien.
Voilà. Ça passe pas.
Si, c'est parfait, regarde. D'accord. Regarde, parce que tu as l'image qui est là. Et tu fais dérouler comme ça.
Ok. Merci. Et puis je vais faire la vidéo. Hein. Ok, bah tu peux y aller. Tu sors ça. Ouais.
même.
Donc, nous allons, nous allons poursuivre avec l'intervention de Marie-France Gisard. Donc, Marie-France Aumenier-Gisard, je la connais bien parce qu'elle a été mon superviseur en EMDR pendant de nombreuses années. Donc, tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute, diplômée d'un DU en psychiatrie périnatale et infantile, Paris 5. Et tu es spécialisée dans les traumatismes complexes avec l'approche en EMDR et l'approche donc sensorimotrice dont tu vas nous parler ce matin. Tu es également spécialisée dans l'EMDR enfant, enfant-adolescent, et tu es facilitateur de l'Institut EMDR en France. Tu es également président de la commission enfants et adolescents de l'association EMDR France. Enfin, tu as plein de responsabilités dans cette association dont nous sommes très proches, puisque la présidente est ici et participe à notre colloque, je l'en remercie. Et puis tu es cofondatrice avec le docteur Patrick Zillart, ici présent, et Marjolaine Hems du Centre européen de psychothérapie intégrée, qui vont s'intéresser, si j'ai bien compris, justement au psychotraumatisme, mais pas que ça. Tu nous diras. Donc tu vas nous parler ce matin d'un sujet que l'on a un peu abordé hier, mais pas beaucoup. Tu connais bien les problématiques d'attachement, les troubles de l'attachement. Donc tu vas nous parler des avancées de la recherche, dans ce domaine, des empreintes par rapport aux problématiques d'empreintes des traumatismes précoces. Et plus spécifiquement, et tu as tenu à cet intitulé pour ton intervention, que je trouve très pertinent, une approche d'un manque d'intégration du soi de l'enfant. Et hier, nous avons pu voir qu'effectivement, ces carences pouvaient avoir un impact traumatique. Donc tu vas nous dire comment tu peux permettre de résoudre ces problèmes, comment intégrer ces mémoires traumatiques dans le vécu.
Ok. Merci Michel. Alors, je suis ravie d'être parmi vous. Je dois dire que je vois beaucoup de monde et je suis assez émue parce que c'est ma première présentation en grand public. Généralement, j'interviens plutôt discrètement dans le cadre des formations. Je travaille en amont et puis surtout avec mes patients. Donc, je travaille en cabinet libéral à Paris et je me suis intéressée à la thérapie MDR car... avec un livre que vous avez peut-être lu ou connu, c'était le livre de David Servan-Schreiber qui parlait de guérir sans médicaments et sans psychanalyse. Et là, je me suis dit, waouh, bah celui-là, il a le moral. Hein. C'était gros pavé dans la mare. Et je me suis dit, moi, j'y crois pas. J'avais lu le passage sur les enfants du Kosovo où, justement, c'était assez touchant où ces enfants qui étaient traumatisés pendant la nuit, ne n'arrivait plus à dormir et que des paroles ne pouvaient pas apaiser ou un réconfort. Donc, il disait qu'il avait fait des mouvements oculaires et ça avait marché. Et là, je dis, je le crois pas, c'est pas possible. Je travaille avec des enfants, on peut pas obtenir ça. Et c'est vrai que je viens du monde de la psychanalyse et très sincèrement, je pense que ma démarche aujourd'hui n'est pas de mettre les thérapies l'une contre l'autre ou ma thérapie meilleure. Je pense qu'on est tous ici pour une avancée commune. Donc, comme les enfants, on doit explorer notre champ, l'ouvrir et rester curieux, sans pour cela porter de jugement. Et c'est vraiment mon intention, ma démarche aujourd'hui. C'est pour mes patients aussi, mes tout petits patients, et qui m'ont dit, mais comment ça se fait que vous n'en parlez pas comme ça, plus souvent, plus ouvertement? Et voilà la raison pourquoi je suis là. Qu'appelle-t-on les empreintes précoces d'origine traumatique? Je vais aller assez vite, parce que je pense que vous avez vu pas mal de choses hier, mais c'est important
non,
que...
Non, Marie-France, on n'a pas tellement parlé, justement...
Des empreintes précoces.
Et de ce fameux manque d'intégration du soi.
D'accord.
Je pense que c'est vraiment important que tu insistes là-dessus et que tu montres le beau travail en sensorimoteur que tu fais.
Et.
Alors, oui, pas trop près le micro pour éviter l'effet Larsen.
Alors, on va faire comme ça. Est-ce que là, c'est bien? Formidable. J'ai plus besoin de tenir. Merci. Donc, au stade préverbal, ce qu'on appelle la tranche 0-3 ans, On voit bien que les enfants encodent leur expérience sous un mode sensoriel et émotionnel. C'est pour ça que nous travaillons, vous voyez, cette vidéo illustre bien, puisque nous travaillons de cette façon-là. Mais simplement, Michel, je voudrais te dire que je travaille aussi bien en EMDR qu'en sensorimoteur. Le but, c'est de vous montrer que quand il y a des limites en EMDR, on peut accéder par le sensorimoteur, la thérapie sensorimotrice que je vous expliquerai parce qu'elle est très novatrice en France. Hein. Elle démarre tout juste. Nous sommes avec le docteur Patrick Szilárd et quelques confrères à nous être formés maintenant il y a 4 ans. Et nous sommes un peu pionniers puisque nous sommes les premiers à avoir bénéficié de cette formation avec Pat Hogan. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc vous voyez que l'idée, c'est que le cerveau subit des remaniements, hein, et qu'il y a une intense prolifération neuronale à cet âge précoce associée à un processus de destruction de circuits neuroniques. Alors, je ne suis pas une experte, mais pour, si vous comprenez, c'est que à ce moment-là, à cet âge, enfin de 0 à 3 ans, il y a beaucoup de neurones. Alors, il y en a qui vont se développer parce qu'ils vont être, ils vont créer des routes, des circuits, parce qu'ils vont être stimulés. Et puis d'autres qui vont s'éteindre parce qu'ils n'ont pas été activés. Et ça constitue les fameuses autoroutes. Et on a remarqué aussi que cette stimulation était essentiellement liée au fait de ce qu'on appelle du bon accordage. Donc tout ce qui touche à l'attachement, aux liens, aux relations avec les éducateurs. Donc vous notez aussi que la mentalisation, hein, le processus de réflexion, commence avant le début du langage. Alors, j'ai illustré par deux photos, parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc, le bébé, qui peut avoir dans les 15 mois, et puis un autre qui a dans les 4-5 ans. Et je vais reprendre cette formule de Michel Delage, qui a écrit et qui a sorti un livre récemment très intéressant. C'est entre 15 et 24 mois que ses fonctions cognitives se complexifient rapidement et qu'il accède au monde verbal. Il lui faudra attendre vers 4-5 ans. Pour pleinement comprendre que l'autre ne peut pas penser comme lui. Et c'est là aussi, c'est intéressant de parler du phénomène d'empathie. Vous voyez, donc un enfant ne peut pas éprouver de l'empathie, si on se réfère au niveau cérébral, avant l'âge de 4-5 ans. Donc quand on prête plein de mauvaises intentions à l'enfant, c'est pas très justifié. Vous voyez que on voit, ce qui est important de comprendre, c'est que le développement de l'enfant est lié aussi au développement du langage et par rapport à ses représentations symboliques. Dans ce qui nous intéresse et pourquoi nous sommes intéressés par travailler par la thérapie sensorimotrice et même EMDR, c'est qu'il y a des traces mnésiques qui préexistent avant le langage. Et la façon de pouvoir le retraiter actuellement, enfin, à ma connaissance, puisque j'ai essayé avec la thérapie psychanalytique bien avant, eh bien, il semblerait que la thérapie EMDR et sensorimotrice aurait une énorme capacité de pouvoir traiter ces traces mnésiques précoces. Les conséquences des manquements et de la maltraitance, comme vous le savez, pour bien d'entre vous, c'est des troubles développementaux et puis une distorsion sur le plan anatomique et fonctionnel des organisateurs centraux. Je vous dirai ce que c'est que les différents organisateurs centraux. J'ai vraiment découvert ça à travers la thérapie sensorimotrice. Et comme a très bien parlé déjà plein d'intervenants, qu'il y a une diminution du volume de l'hippocampe. Alors pourquoi c'est les aimants clés du cerveau, vous les retrouverez sur le PowerPoint si ça vous intéresse. Pourquoi c'est important de notifier la diminution du volume de l'hippocampe? Parce que c'est là aussi qu'on va avoir une diminution de la capacité intégrative de l'enfant. Et par rapport à l'intégration, vous voyez, du soi ou du réel pour l'enfant, ça joue énormément. Donc c'est pour ça que ça, c'est une méta-analyse de Carl que j'ai pris quand je me suis formée avec un monsieur. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il n'est pas très connu en France, hollandais, qui s'appelle Elert Noyonos, avec Onno van der Hart, et qui a écrit Le Soi hanté. Je vous ai mis toute la biblio à la fin, qui est passionnant. C'est un livre extraordinaire qui montre comment travailler avec les états du moi, la dissociation et la dissociation structurelle. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, de vous pencher là-dedans, si vous avez affaire à des gens traumatisés, mais aussi à des personnes qui ont leur développement bloqué à un certain moment de leur vie dû à une chronicité du traumatisme qui peut être la maltraitance ou la négligence. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, je vais faire ressortir, c'est les résultats indiquent que le modèle systémique touche la sévérité de la dissociation structurelle par la réduction de la capacité et par la réduction de la capacité intégrative. Je vais vous définir un petit peu ce que c'est que l'intégration, hein. Je vais vous éclairer au fur et à mesure. Quel intérêt d'avoir accès à ces empreintes ? Eh bien justement, c'est parce que ça entrave le processus d'intégration. Et que ce processus d'intégration, c'est un processus de digestion et d'absorption de tous les processus traumatiques de toute nature, mais aussi des expériences qu'on fait hein, quand on est tout petit. Donc Ono van der Haar disait que les enfants maltraités très tôt vont être beaucoup plus sensibles à travers les points de rupture et à intégrer les processus. Et c'est vraiment le cas. J'avais 3 cas cliniques à vous présenter, mais le temps est tellement restreint que je vais juste dire pour ce patient, parce que je travaille aussi avec des patients adultes, et ce patient qui a 35 ans, qui est arrivé dans mon cabinet après avoir erré de thérapeute en psychiatrie, en psychanalyse, et qui présentait vraiment un tableau pathologique complexe. Et c'est un monsieur qui avait des troubles phobiques, maximum, qui l'empêchait de prendre l'avion, qui l'empêchait de travailler, puisqu'il avait un métier aussi, il fallait qu'il se déplace en voiture. À chaque fois qu'il prenait la voiture, ça lui demandait un effort surhumain de pouvoir gérer l'énergie qui débordait, et c'était vraiment terrible. Il m'a beaucoup touché, ce monsieur, et il m'a dit, vous savez, j'ai tout fait et je n'arrive à rien, il faut que je continue. Et madame, j'ai l'impression de devenir fou. Et j'ai assisté à une conférence, et il y avait Michel Sylvestre, que vous connaissez probablement, et il a parlé de l'EMDR. Et est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir m'aider? Et à ce moment-là, j'ai dit, alors ça, je ne sais pas du tout. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye et je vois si ça marche. Mais je ne peux pas prétendre à ça, je n'ai pas cette capacité. Donc, vous voyez, c'est pour ça aussi que je suis là, parce que j'ai remarqué qu'à travers les colloques, les conférences, on pouvait attirer l'attention de certaines personnes. Et au moins, si on a une personne dans un colloque qui vient après trouver et pouvoir se guérir, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, lui, il avait énormément de points de rupture dans son enfance. Il avait un tableau catastrophique avec une mère qui était très jeune, qui avait 17 ans, un père de 19 ans, incapable de contenir l'enfant. Mais bon, ils ont essayé. Et puis, souvent, il n'avait pas à manger parce que la maman ne répondait pas à ses besoins. Et puis, il avait aussi plein de flashbacks, d'intrusions dans son corps, des scènes de violence que son père buvait beaucoup d'alcool et il tapait souvent sa mère. Et c'était quelque chose vraiment de terrible. Et il me dit, j'ai juste un flashback, il avait à peine 2 ans. Alors, on ne sait pas non plus la validité de ce souvenir, hein, si c'est un souvenir reconstruit ou pas. En tout cas, il disait qu'il voyait sa mère se faire taper par son père. C'est la seule image qu'il gardait du début de son enfance et qu'il ne pouvait rien faire. Bien évidemment, personne ne s'occupait de lui. Il subissait, il était donc impuissant. Et puis, ça a été le premier point de rupture. Et puis le deuxième point de rupture, c'est que le père, à la suite de cette situation, est parti, les a abandonnés. Donc la mère est complètement partie en life. Et c'est la grand-mère maternelle qui est venue rechercher le petit en Allemagne et qui l'a ramené en France. Et la mère est restée en Allemagne parce qu'elle voulait continuer de rester avec le père, mais ça ne fonctionnait pas. Donc troisième point de rupture. Donc son parcours n'est que comme ça. Vous pouvez imaginer comment on peut se construire. Ben lui, j'ai trouvé formidable, il a réussi quand même. Il a réussi à avoir une situation et puis à atterrir dans mon cabinet pour dire « Aidez-moi maintenant, je ne peux plus gérer là, c'est trop difficile pour moi. » Et le point final, c'était l'inceste qu'a eu sa mère avec lui quand il a 18 ans. Donc ça a terminé de l'impacter. Comment vous voulez travailler avec des personnes comme ça quand vous êtes... en thérapie, en face à face. Bien sûr qu'en tant que thérapeute, vous avez de la bonne volonté. Bien sûr que vous voulez aider l'autre. Bien sûr qu'on sait que 60% d'une réussite dans un travail de thérapie, c'est l'alliance thérapeutique, c'est le thérapeute. Et ensuite 40% la méthode. Mais quand vous n'avez pas les méthodes, quand vous n'avez pas les outils, comment pouvez-vous faire pour aider une personne comme ça? Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer la thérapie MDR avec lui. J'ai décidé de cibler les traumatismes. Et ensuite, comme il était tellement effrayé, tout était compliqué pour lui. Quand je me rapprochais, parce que dans la thérapie MDR, on doit se rapprocher de son patient, il le vivait comme une activation, ça le déclenchait dans son corps. Et puis en même temps, il s'en voulait parce qu'il voulait s'en sortir. Et en même temps, il ne voulait pas me faire de peine, parce que vous savez que nos patients n'aiment pas faire de peine au thérapeute. Il prend soin, le patient. Et grâce à ça, grâce à lui, je me suis tournée vers la dissociation structurelle, les états dissociation, et c'est là où j'ai décidé de me former donc avec le docteur Patrick Szilard, qui est présent. On est parti comme des aventuriers en Suisse, et voilà. Donc c'est un peu décousu tout ce que je vous raconte, mais compte tenu du temps, j'avais structuré, je vous avais bien présenté le cas et tout, et je fais avec. Hein. J'espère que ça vous convient. Donc c'est le fameux cas de Bernard. Je trouve très intéressante cette définition de l'intégration proposée dans le Soi Hanté, qui dit « L'intégration est un processus adaptatif impliquant des actions mentales permanentes, voyez les actions mentales permanentes, qui aident à la fois à différencier et à lier les expériences au fil du temps. » Et vous voyez, c'est cette idée d'intégration de continuum, qu'une personne, elle devienne une personne unifiée, cohérente, intégrée au fil du temps. La question du temps est fondamentale. Dans notre travail, il faut ralentir le temps et en même temps l'accélérer. Je vous dirai pourquoi, en EMDR et en sensorimoteur. Au sein d'une personnalité qui est simultanément flexible et stable, elle favorise ainsi le meilleur fonctionnement possible dans le présent. Donc, vous voyez que les individus traumatisés souffrent d'un échec d'intégration parce qu'ils n'ont pas de moyens, de ressources dans leur développement. Et je dirais qu'à travers la thérapie MDR et le sensorimoteur, nous allons essayer de construire ces ressources et favoriser ces moyens. Notre idée, c'est surtout d'aider le patient, je vais dire peut-être un mot qui vous choque, mais à s'auto-guérir. C'est vraiment donner les moyens à ce patient de dire, voilà, ton corps, il est comme ça, et c'est OK, et tu vas voir, tu as les capacités de t'auto-guérir, mais tu ne sais pas comment. C'est un peu comme avec les enfants, on leur montre, on leur refait une éducation. Et j'aime beaucoup cette phrase de Daniel Stern, ils n'ont donc pas pu se construire un sentiment d'identité unifié et singulier. Donc grâce à l'approche des thérapies émergentes, que le MDR et le sensorimotrice, on peut avoir accès à ces empreintes traumatiques précoces. Donc je vais vous dire un petit peu, on en a déjà parlé, donc la thérapie MDR vient des États-Unis et c'est le docteur Francine Shapiro que je salue, franchement, d'avoir trouvé cette méthode. Et puis elle dit elle-même qu'elle aurait appelé maintenant la thérapie du retraitement. Elle repose sur le modèle TAI donc, et qui comporte 8 phases protocolaires. Alors, soit je vous fais un peu le détail, mais on va perdre pas mal de temps, mais je ne pense pas que ce soit ce qui vous intéresse. N'est-ce pas?
Non, Marie-France. En fait, le MDR, on ne souhaitait pas que ce soit traité dans ce colloque, puisqu'on en a abondamment parlé dans d'autres colloques, mais plutôt focalisé sur l'approche vraiment sensorimotrice.
Nous voilà, Michel.
Merci, Marie-France.
Donc, la thérapie sensorimotrice. J'aimerais savoir, dans cette salle, combien de personnes lèvent la main pour me dire, parce que moi, j'ai besoin de la main levée, connaissent la thérapie sensorimotrice? Ah, quand même. Regardez autour de vous. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc c'est vraiment 5. Donc novateur. Donc, elle était créée par Pat Hodgen, psychologue, et qui connaissait aussi la thérapie EMDR et toutes sortes de thérapies, les états du moi, enfin tout ce que vous avez pu voir. Le felt sense, dont on vous a dû vous parler hier. Et Alan Shore, Bessel van der Kolk et Daniel Siegel et Lennar Jundt ont contribué largement à enrichir cette approche, parce qu'en fait, ce sont des neurologues et l'importance de la neurologie pour aborder ces thérapies est fondamentale, les neurosciences. Donc c'est une approche qui est essentiellement centrée sur le corps, par des interventions orales, il n'y a donc pas de mouvement oculaire, il n'y a pas de stimulation, dans un état de pleine conscience qui aborde le trauma et ses effets neurobiologiques. Donc la pleine conscience, vous avez eu une intervention hier. Et ce qui est important, c'est qu'elle met en action les 5 organisateurs centraux. Alors, je vais vous faire un rappel de ce que c'est que les organisateurs centraux.
Et qui sont... reste 5 minutes, Marie-France.
Même quelle pression.
En contenant le retard que nous avons collectivement accepté, qui fait que la pause sera réduite d'un quart d'heure, mais là, il reste vraiment que 5 minutes.
Bon, je fais avec ça, on dirait en EMDR, continue avec ça. Bon, le sensoriel avec la perception des 5 sens, mais c'est important que je dise ça aussi, hein, parce que c'est fondamental de rappeler ça. Le sensoriel avec la perception des 5 sens, le mouvement représenté par la posture, la sensation corporelle interne, l'émotion et la cognition. Donc nous, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire en sensorimotrice, en la thérapie sensorimotrice, on va travailler avec ce sensoriel, avec la posture et la sensation corporelle, l'émotion et la cognition. Donc je vais passer sur cette phrase qui dit que là où s'oriente l'attention, des neurones s'allument, et là où les neurones s'allument, on peut établir de nouvelles connexions. Et c'est ça qui est fondamental. C'est que grâce à ça, on peut établir de nouvelles connexions. Vous vous rendez compte? Avec une nouvelle expérience au sein d'une thérapie, on peut rétablir de nouvelles connexions. C'est pas facile, hein, de faire vite. Hein. Donc, voyez, la pleine conscience, vous connaissez. Donc, je vais plus vous faire ressortir que ça correspond à l'attention double, à co-conscience dans les deux approches de ces thérapies. Le concept de fenêtre de tolérance est formidable. Je trouve vraiment, c'est parlant. Et moi, je fais de la psychopédagogie avec mes patients. Je leur explique qu'est-ce que c'est que la fenêtre de tolérance. Je ne sais pas si vous la connaissez. Qui a été développée par Pat Hodgen et Minton, toujours celle qui a créé le sensori. Et c'est vraiment la caractéristique du travail qu'on peut faire avec les empreintes précoces du traumatisme. Donc tout le but de la thérapie sensorimotrice, ça va être d'élargir cette fenêtre de tolérance pour augmenter la capacité intégrative. Donc vous voyez un petit schéma, ça parle bien. Fenêtre de tolérance, c'est ces deux traits que vous voyez comme une fenêtre. Et quand on est dans cette fenêtre, on a vraiment la capacité de pouvoir apprendre. On a les moyens d'apprendre, on est bien, on est en sécurité, on a reçu les bons soins. Tout va bien, on est OK, comme je vous vois maintenant, là, ça a l'air d'aller, vous êtes toujours dans votre fenêtre de tolérance, j'espère. Et puis, vous voyez, quand on va au-dessus, on a une hyperactivation. Et c'est l'activation qui excède la capacité d'intégration. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien apprendre, on ne peut plus rien faire. On essaie juste de gérer ses émotions, ses peurs. Et quand on est en dessous, eh bien là, on se dissocie. On ne peut plus intégrer non plus. Donc, vous savez que le bébé, quand il naît, il a une fenêtre de tolérance très étroite. Et c'est grâce aux soins prodigués que la fenêtre va s'élargir au fur et à mesure. Et que quand nous sommes adultes, cette fenêtre va permettre de nous pouvoir vivre des expériences par rapport à notre âge. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des adultes qui fonctionnent comme des enfants de 4 ans, parfois? Oui? Bon. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est qu'ils ont une fenêtre de tolérance qui est restée en partie, j'y mets en partie, assez étroite. Et notre travail, ça va être d'élargir ça. Donc, vous voyez, en même temps, on a toujours par rapport à cette fenêtre de tolérance, notre travail va être de permettre de travailler juste au bord. Vous voyez, en haut, j'ai pas de... Je suis désolée, hein, j'ai pas de sticker.
Une minute.
Merci Michel, c'est horrible, horrible.
Oh, tu
va me maudire.
Allez, je vais recentrer mes pieds dans le sol, comme on fait en thérapie sensorimotrice, et bien s'ancrer, pour pas être activé, vous voyez, émotionnellement, et être débordé. C'est ce qu'on fait avec nos patients. Donc, on travaille juste à la limite, comme ça. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand vous savez qu'avec les enfants qui n'ont pas accès justement à la parole, on va utiliser cette émotion et cette sensation pour pouvoir les retraiter, c'est magique. J'aime bien ce mot. Bon, différence entre MDR et thérapie sensomotrice, parce que le MDR, j'ai eu des limitations, mais je vais vous montrer ce schéma aussi très intéressant. Vous voyez qu'en haut à gauche, on traite le trauma en EMDR avec un impact direct. On va dans le trauma directement. Et c'est formidable quand les personnes ont une capacité élargie de leur fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'ils sont capables de pouvoir rester en place avec ce traumatisme. Puisque vous vous souvenez qu'il faut toujours cette co-conscience. Ça ne peut marcher un retraitement que si on est co-conscient. Un pied dans le passé, un pied dans le présent. Donc si on va toucher au cœur comme ça du trauma en EMDR, ce qui peut se passer, c'est que la personne va sortir de sa fenêtre de tolérance. Et là, elle est partie. Elle n'est plus là. Elle est repartie dans son monde. Alors il faut aller la rechercher pour la ramener dans le présent. Et donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup de chance, on m'envoyait tous les cas complexes de la place de Paris où ça ne marchait pas déjà en thérapie EMDR. Et bien on disait, allez voir Marie-France Gisard, elle va peut-être trouver une solution. Donc c'est là où je me suis tournée vers le sensorimoteur. Et vous voyez en bas à gauche, le sensorimoteur va aller pas à pas. Il s'approche du trauma toujours en maintenant le patient dans sa fenêtre de tolérance. Et ça, j'irai franchement en 30 secondes pas le temps de vous expliquer comment ça marche. Donc il faudra vous intéresser ou peut-être être invité pour une nouvelle conférence et en parler plus longuement, comme Cyril. Mais vraiment l'intérêt, c'est que le patient peut lui-même s'autogérer, s'autoréguler. On lui apprend à travers ça. Donc je vais très vite. Donc l'intérêt de la thérapie sensorimotrice, c'est que les souvenirs sont encodés d'une façon traumatique, enfin vous voyez, d'une façon sensorimoteur. La personne peut retrouver un soin intégré. S'il y a un manque de soins, d'accordage ou une pauvreté de langage pour nommer les expériences vécues, l'enfant ne pourra pas lui-même accroître sa fenêtre de tolérance. Et c'est ça qui est super fondamental, c'est que grâce à la nouvelle expérience qu'on peut avoir avec le thérapeute en vivant une nouvelle forme d'expérience et pas une forme de négligence, mais en mobilisant les 5 organisateurs centraux, qu'on va réencoder quelque chose. C'est ça, hein, c'est pour ça que je vous disais que c'est important les 5 organisateurs centraux. C'est à travers ces 5 organisateurs centraux qu'on va encoder une nouvelle expérience, même si ça s'est passé il y a 20 ans. Et ça, c'est incroyable, je vous assure, je suis bluffée.
Nous aussi, Marie-France, on est vraiment obligé de s'arrêter.
Bon, attendez, voilà. Bon, on ne parlera pas, vous voyez. Peut-être que je laisserai sur le PowerPoint si vous voulez accéder.
Oui, de toute façon, on a déjà demandé à tous les intervenants de nous donner leur PowerPoint pour les mettre sur notre site.
Vous voyez tout ce que vous ne saurez pas.
Si tu veux bien nous donner tes PowerPoint, nous les mettrons en ligne oui. Sur le site.
Je voudrais juste, si tu permets, une minute, et je pense que vous êtes des grands-enfants, non qu'on peut dire des adultes, vous êtes capable de...
Qui avons besoin de prendre une pause.
Oui, mais il n'y a pas de problème. Je voudrais que vous regardiez cette citation, parce que c'est vraiment l'illustration. L'histoire de la science est riche en exemples de rapprochements fructueux entre deux ensembles de techniques, deux ensembles d'idées développées dans des contextes distincts pour la recherche des vérités nouvelles. Et je rends hommage à David Servan-Schreiber, qui lui-même mort d'une tumeur au cerveau, et puis j'ai une pensée aussi vers Cyril, hein, qui est touché aussi, affecté par un membre de sa famille à ce sujet. Et David disait, dont il disait des malades et des souffrants, qu'il forgeait de belles âmes pour un nouveau monde. Et je remercie aussi le docteur Patrick Szilard, qui est, vous voyez sur la photo, mais présent ici, de tout son soutien. Il est tellement avant-gardiste, Patrick, que franchement, ça m'arrête d'être salué. Merci à vous.
Merci. Tu vois, tu as fait passer du vécu, du traumatisme, de la frustration. On est tous avec toi, parce que c'est pas évident de faire passer ce message qui est finalement, il faudrait presque le vivre pour bien comprendre ce que l'on fait.
Oui.
Mais voilà, je suis sûre que tu leur as donné le goût d'aller plus loin, et tu reviendras sûrement dans nos colloques, Marie-France.
Très mauvais d'être avant la pause, hein, parce que tout le monde a envie de faire pipi, et puis
manger. On a un timing à tenir,
et puis manger.
Il y a encore beaucoup d'interventions.
Merci.
Merci beaucoup, Marie-France. Donc, retour dans la salle à 45, 11h45. Vous avez perdu un quart d'heure de pause.